Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, avec Fred Hermel, avec Emmanuel Dancourt, avec vous bien sûr au 32-16 pour réagir à ce constat. Il n'existe plus de voiture neuve en France à moins de 10 000 euros. Est-ce que la voiture est devenue un luxe? 14h30, RMC s'engage pour vous. Amélie Rosic va tenter d'aider Emeline. Sa voiture a été endommagée par un câble électrique, mais personne ne veut l'indemniser. Heureusement, Amélie Rosic est là et on tentera d'aider cette auditrice. Et puis bien sûr, le coffre RMC, Rémi.
Oui, parce qu'à quelques jours du début de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech grâce au coffre RMC. Vous vous inscrivez tout de suite. C'est simple, vous envoyez le mot coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, alors vous repartirez soit avec un iPad, soit avec une enceinte Marshall Woburn. Mais si vous êtes joueur, vous pouvez tenter autre chose. Tenter d'ouvrir le coffre RMC, vous renoncez à ce premier cadeau et à l'intérieur du coffre, vous tombez soit sur des AirPods, soit sur la totale Coupe du Monde avec à l'intérieur une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Alors, est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC? Vous envoyez en tout cas, pour vous inscrire, coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser aux chiffres du jour dans Estelle Midi, et c'est le zéro. Il n'existe plus aucune voiture neuve à moins de 10 000 euros en vente en France. C'est une première. La voiture la moins chère en France, c'est désormais la Dacia Sandero à 11 490 euros. Mauvaise nouvelle, Rémi, pour tous ceux qui comptaient acheter un véhicule, notamment un véhicule électrique.
La voiture est devenue un luxe nécessaire. C'est ce que nous dit une toute récente étude, en l'occurrence le baromètre annuel de l'Observatoire CTLM, enquête réalisée dans 18 pays et publiée il y a moins d'un mois. On y apprend notamment que pour 7 automobilistes français sur 10, rouler en voiture nécessite des sacrifices financiers. Mais ils sont encore davantage, 75% à déclarer ne pas pouvoir se passer de leur voiture. Alors on se débrouille comme on peut. Une majorité de Français déclarent réduire leurs déplacements. Ils sont 46% à comparer systématiquement les prix afin d'acheter l'essence le moins cher possible. 44% essaient d'optimiser leur conduite pour consommer moins de carburant. Conduite plus souple, on roule moins vite. Oui. Un tiers des automobilistes disent également se déplacer plus souvent à pied, à vélo ou en trottinette. Et plus d'une personne sur deux s'est séparée d'un des véhicules du foyer ou est décidée à le faire prochainement. J'ai bien dit une personne sur deux. Et quand il faut changer de voiture, bah le neuf est proscrit désormais, ou presque, trop cher. Cette année 2022, seuls 2% des foyers français ont acquis un véhicule neuf. C'était 7% en 1990. Les acheteurs de véhicules neufs ont aujourd'hui en moyenne 55 ans contre 44 ans en 1990. 59% des Français craignent de ne plus pouvoir avoir les moyens de posséder un véhicule à l'avenir, avec la peur de ne plus pouvoir se déplacer comme ils le souhaitent. Allez, un dernier élément, ça ne devrait pas s'arranger avec l'électrique. Hors de prix encore à l'heure actuelle pour beaucoup. Le modèle le moins cher aujourd'hui, c'est la Dacia Spring de Renault. Le modèle d'accès est à, hors prime, 22 100 euros. C'est une hausse de 3 810 euros comparé à la période de lancement au printemps 2021.
Non mais c'est assez absolument incroyable. Donc aucune voiture électrique à moins de 20 000 euros en France. La voiture est-elle devenue un luxe, Emmanuel Dancourt?
Oui. Ah, je crois que oui, archi oui, quoi. Enfin, pour moi, ça l'est devenu en même temps un luxe dont je ne peux me passer.
Ah, donc, ben oui, c'est ça.
J'ai demandé à
tu peux te passer une voiture neuve.
Ça que je veux dire. Mais moi, je n'ai jamais eu de voiture neuve de ma vie. Ça n'est pas dans mon économie. J'ai toujours eu des voitures d'occasion. Mais la voiture que j'ai achetée là en 2015, au moment de la séparation, c'est une C4 Picasso. Elle avait 20 000 km au compteur. Elle était plutôt neuve. Hein. Je l'ai payée 20 000 euros. C'est pour ça que je m'en souviens. 20 000 km au compteur, 20 000 euros. J'ai demandé à mon pote garagiste qui me l'a vendue combien je la paierais cette voiture aujourd'hui. Il me dit alors je te préviens, tu n'as plus les moyens de cette voiture qu'initialement on s'était dit, tiens, on va la revendre. Il m'a dit, tu l'as fini ta voiture aujourd'hui. Pareil, elle vaudrait 36 000 euros ta voiture à 20 000 km. Il me dit, tu n'as pas les moyens de te racheter une voiture, tu vas nous finir cette voiture et elle ira un jour à la
caisse. D'occasion.
Ouais. Ouais, il a regardé, hein. Oui, non, mais c'est un truc de fou. Tu vois, non, mais c'est un truc de fou. Il m'a dit, tu n'as pas les moyens. Tu finis ta voiture, donc je vais la finir et puis un jour elle ira. Où est-ce que ça va une voiture
à la
casse. C'est ça. Alors, le problème de finir les voitures, c'est qu'en ce moment, on n'arrête pas de nous dire que il faut être hyper écologique, il va y avoir les ZFE. Donc en fait, on ne peut plus finir les voitures. Donc
c'est
le prix de ces voitures neuves, il est anti-écologique finalement.
Ah, mais très clairement. En fait, alors, évidemment, c'est devenu un luxe. Ça a deux conséquences. Un vieillissement à moyen et court terme. Un vieillissement du parc automobile français avec donc des voitures qui vont rouler en moins bon état.
Ce qui est déjà en cours. Hein.
Ce qui est déjà en cours.
Aujourd'hui, l'âge moyen des voitures en France ne cesse de s'accentuer. C'est 12 ans.
Cher à l'entretien.
On est à 11,7 ans.
Donc, ça veut dire des voitures potentiellement plus dangereuses qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Oui.
Et la deuxième chose, c'est que ça va obliger les pouvoirs publics à revoir un certain nombre de politiques. Et vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas très conforme à nos politiques environnementales. Mais si on parle des fameuses zones à faibles émissions, ça veut dire que ces voitures qui sont anciennes et qui polluent sur le papier plus, enfin qui polluent plus que les voitures neuves, eh bien ne pourront plus aller dans un certain nombre de grandes zones comme le Grand Paris bientôt. Donc, il va falloir très sérieusement que l'État, les pouvoirs publics, les collectivités locales comme Paris par exemple, songent à revoir un peu leur fusil d'épaule, sinon ça va être une catastrophe. Après, je voudrais juste relativiser un petit peu. En 1981, il fallait 6,3 mois de salaire moyen pour acquérir une voiture de base qui était une Renault 5. C'est tombé en fait en 2011 à 4,9 mois, donc ça a baissé. Et là, c'est remonté, parce qu'évidemment, à cause du prix des matières premières, etc., à quasiment 7. Donc en fait, on retombe dans la cherté du fait d'acquérir une voiture à quelque chose qui était le cas à peu près avant les années 80. Voilà.
Je voulais juste. Mais après, ce qui coûte très cher dans les voitures, c'est l'électronique. Est-ce qu'on pourrait pas revenir? Vous savez, les téléphones, il y a plein de gens qui sont venus au Nokia 3310. C'est juste pour téléphoner. Est-ce qu'à un moment, on peut pas revenir à des voitures avec moins d'électronique? Genre avec une espèce de manivelle pour ouvrir la vitre.
Oh bah oui.
Et ben, et alors? Et ben.
Alors, je vous vois très bien avec une manivelle en train d'ouvrir votre vitre.
Oui, et ben, c'est compliqué d'ouvrir une manivelle pour ouvrir une vitre. Si moi, franchement, si ça me coûte 2000 euros de moins, je prends la voiture avec la manivelle. Hein. Et pareil pour la clim manuelle. Enfin, vous pouvez tourner un bouton. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Et en fait, c'est ça qui coûte cher aujourd'hui dans les voitures.
Bien sûr. Estelle a tout à fait raison. Estelle, vous avez raison. Pour une raison très simple. Ma Twingo, je l'ai gardée 25 ans.
Et voilà.
Ma Twingo, c'était un volant, une boîte de vitesse et quatre roues. Et quand j'allais. Quand j'allais chez le garagiste pour la révision annuelle ou pour le contrôle technique, etc., mais ça coûtait rien. Parce que c'était des petits trucs à changer. Donc, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas revenir.
Aujourd'hui, il faut faire Polytechnique pour réparer la
bagnole. Exactement. Excusez-moi, je peux 22 000 balles pour une Dacia. Je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour Dacia, mais t'impressionnes pas grand monde avec une Dacia. Hein. Enfin, je veux dire.
On n'a pas de voiture pour impressionner.
Mais ce que tu dis, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on n'achète plus de voiture pour impressionner qui que ce soit. Avant, c'était un signe extérieur de richesse.
J'avais mon petit succès avec ma Twingo.
Mais c'était un signe extérieur de richesse. On l'a connu, on est des jeunes des années 80-90 où t'as acheté une belle voiture et tout. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont
pas les moyens. Courses dedans,
basta,
quoi. C'est
utile.
Le problème n'est pas la part de l'électronique, le problème c'est l'obsolescence programmée. Moi, j'avais raconté l'histoire d'une CS5 qu'on était obligé d'envoyer à la casse parce qu'il manquait un bout de tuyau qui n'était plus fourni par Citroën. Finalement, on a trouvé quelqu'un qui a remplacé le tuyau.
Et puis,
ce n'est pas l'électronique.
Et puis, les moteurs explosion, d'accord. Ok, c'est horrible, mais tout ce que vous voulez. Sauf que ça tient plus longtemps qu'avec les batteries électriques, parce que là, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est avec les voitures électriques. Combien de temps ça? Parce qu'on sait que la question des batteries, c'est un problème pour tout, pour les téléphones, pour les voitures, etc. On ne sait pas combien de temps vont durer ces fameuses batteries et combien ça va coûter.
Et donc, une question, si un jour tout le monde est équipé en voiture électrique, comment tu alimentes électriquement
de fois
l'ensemble?
C'est un autre débat.
Rémi,
vous avez des messages.
Allez Mathieu, tiens, qui s'adresse à toi. Bien sûr que la voiture est un luxe, les voitures deviennent de plus en plus chères parce qu'il y a de plus en plus de technologies à bord qui ne servent à rien à part distraire encore plus. Le seul élément positif, c'est l'augmentation de la sécurité de la voiture. Sinon, Android Auto ou autre truc dans le genre ne sert à rien.
Voilà. Moi, je vais faire une pétition pour le retour de la manivelle.
Mais je
vous dis que je peux arriver à 10 000 signatures sans aucun problème.
Tu auras déjà la mienne.
Déjà la manivelle pour ouvrir la fenêtre ?
Mais bien sûr.
Ici, n'achetera une voiture avec une manivelle. J'en fais le pari aujourd'hui. Pas un d'entre vous.
Je peux t'assurer que je le fais. Moi, pareil, ça coûte moins cher.
D'abord, c'est pas de l'électronique. C'est juste de l'électrique pour ouvrir une vie.
Je suis d'accord, mais alors une manivelle solide, hein, parce que tu te souviens quand elle a cassé à chaque fois qu'elle s'est déboîtée.
Et excusez-moi, mais si jamais un jour votre voiture tombe dans un canal, et ben il vaut mieux avoir une manivelle pour ouvrir la fenêtre, parce que si jamais vous avez un bouton électrique et donc il y a plus de courant, enfin il y a plus rien, et ben vous mourrez noyé.
Tu penses à ces choses, toi?
Avec une manivelle, vous pouvez vous en sortir. Richard nous a appelé le cavalier.
Non mais moi j'habite à côté du canal de Bourgogne, ça me parle.
Mais ça parle à tout le monde. Bonjour Richard.
Oui, bonjour Estelle, bonjour.
Bonjour,
voilà, donc je travaille chez Peugeot Berbillier et Cavaillon et je voulais un petit peu témoigner.
par rapport à mes clients, mon retour d'expérience client, où j'ai, donc ça fait 20 ans que je travaille chez Peugeot à Cavaillon.
Ouais.
Et il est vrai que j'ai de plus en plus de difficultés à garder mes clients chez moi, donc chez Peugeot, parce que les voitures ont aussi augmenté largement et augmentent pratiquement tous les 2 ou 3 mois dans la gamme Peugeot.
Alors, c'est quoi la voiture neuve la moins chère chez Peugeot?
Alors, c'est 16 400 euros, hein, 208 likes et 175 chevaux. C'est 16 400 euros. Alors qu'avant, nous avions des véhicules à 12 13 000 euros.
Mais sur ouais.
la 38, c'est un modèle qui s'est arrêté complètement.
Et pourquoi c'est cher comme ça?
Alors, l'augmentation des pièces détachées, bien entendu. Puis aussi, l'exigence client, la concurrence des autres constructeurs, où il faut proposer des véhicules de plus en plus performants et de plus en plus sécurisés. Aussi, avec des technologies moteurs évoluées pour répondre aux normes de pollution.
Et pas des manivelles.
Oui, bien sûr.
Donc ça, on est obligé. Et puis, on a quand même une question de sécurité. Hein. Lorsqu'on est en voiture, qu'on a sa fille, ses enfants, on veut une voiture qui freine bien, qui accélère bien, qui vous protège lorsque vous avez un choc, que les airbags sortent, et ainsi de suite. Mais où je voulais en venir, c'est surtout, j'ai la solution, enfin, j'essaie de trouver la solution vis-à-vis
de la manivelle, clients. Évidemment.
Alors, pas par rapport à ça, mais pour pouvoir garder nos clients chez nous à Cavaillon, on essaye donc de trouver une solution avec nos clients, soit pour leur proposer l'alternative, et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès, c'est l'alternative, location.
Alors, je m'explique. Ah, bah, bien
pourquoi.
Sûr.
Parce que si vous achetez une voiture à 20 000 euros, que vous la financez sur 5 ans, c'est 400 euros minimum par mois. Sans apport. Si vous la louez, c'est 300 euros par mois, 10 000 km par an.
Et on s'en rend moins compte.
On peut faire l'effort. C'est-à-dire les voitures ont augmenté. Par mois, c'est pas gênant.
Et,
et quand vous la rendez, il y a souvent, vous pouvez payer des milliers d'euros parce qu'elle a été usée, parce qu'il y a une rayure, etc. Attention.
C'est faux, vrai et faux. Si vous la louez et que vous passez par un service externe au niveau de la location et lorsque vous la restituez, c'est un vrai loueur, hein, et lorsque vous la restituez, en effet, là, entre guillemets, il vous fracasse les frais de restitution. Bah, oui. Par contre, si c'est moi qui le gère de A à Z, c'est-à-dire que vous venez chez nous, on fait l'estimation de location, quand vous ramenez la voiture, c'est moi qui reprends la voiture, et à ce moment-là, c'est moi qui fais les frais de remise en état, et c'est une négociation, c'est du commerce.
Oui, mais pour repartir sur un nouveau véhicule.
Oui, voilà.
Pas
oui.
du tout, pas du tout.
Bah,
parce
bon.
Que il y a deux façons de faire la location. Soit vous passez par un loueur et la location à la fin, la restitution, l'option d'achat est très élevée. Ça vous permet d'avoir des loyers très bas. C'est pas la pratique de Cavaillon à Peugeot. On met un loyer, on va dire une valeur de rachat correcte par rapport à la valeur Argus prévisionnelle de la voiture, ce qui permet de compenser les éventuels frais de remise en état.
En tout cas, on va faire simple. En fait, c'est ce que vous dites, Richard, c'est
très bon commercial, Richard.
Oui,
hein.
Oui, il a bien placé Cavaillon 8 fois.
Et vous avez 2 melons pour le prix de la voiture.
On saura où aller. Merci, Richard, en tout cas, pour ce bon plan. Voilà, Richard, il dit, en fait, pour payer sa voiture moins chère, il faut la louer. Mais enfin, évidemment, si elle n'est pas à vous, vous ne pouvez pas la revendre. Mais enfin, il y a quand même des avantages, c'est qu'on voit moins la. Ça coûte, enfin, on s'en rend moins compte, vous voyez, quand vous versez 100 euros par mois, c'est moins cher que si vous donnez 12 000 direct. Bon, enfin, au final, vous payez quand même. Cédric est avec nous, il nous appelle d'Annecy. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour à tous, bonjour à l'équipe.
Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Cédric, est-ce que vous avez une voiture neuve?
Oui, effectivement. J'ai fait l'acquisition d'une voiture neuve il n'y a pas très longtemps et j'ai vu effectivement sur une vingtaine d'années l'évolution drastique du coût. Puisque depuis 20 ans, j'ai le même modèle, en fait.
Ouais.
C'est à peu près la même gamme, la même motorisation, grosso modo. Donc,
vous avez quoi comme voiture?
Un Renault Scénic, familial.
D'accord,
ouais.
Okay.
Effectivement, ça va très bien pour la famille de 4 personnes, mais
oui.
Il y a 20 ans, c'est un véhicule qu'on payait autour des 16 000 euros. Après, c'est passé rapidement à 22 000, 23 000, et aujourd'hui, c'est un véhicule qui a plus de 32 000, 33 000 euros.
Wow. Ah oui, donc plus de 100% d'augmentation, quoi.
Exact. On comprend pas trop, effectivement, qu'est-ce que justifie tout ça.
La manivelle.
Le fait que, qui est de plus en plus électronique, d'assistance, etc. Mais bon, à un moment donné, on cherche des alternatives. Malheureusement, on va moins chez le concessionnaire, on va chez des mandataires auto. Ou ce genre de choses qui nous permet de gagner des fois 15-20% sur un véhicule. Quoi.
Cédric, est-ce que vous avez hésité avant d'acheter une voiture neuve? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tourné vers l'occasion?
Parce que finalement, l'occasion, avec un marché tendu, où aujourd'hui, pour avoir des voitures neuves, on met 9-10 mois pour en avoir une. In fine, le marché de l'occasion est aussi cher que celui du neuf. Donc, pourquoi ne pas avoir une voiture neuve, au final, plutôt qu'une voiture d'occasion surcotée? Donc, le choix est des fois aussi un peu judicieux ou stratégique.
Mais c'est vrai que vous avez raison de le rappeler. C'est vrai que le marché de l'occasion a énormément augmenté aussi. Et c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, c'est pas grave, j'achète une voiture neuve, je prends une voiture d'occasion. d'occasion, mais c'est quasiment aussi cher. Donc finalement, il n'y a pas d'alternative pour le consommateur. Merci Cédric, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Et notre invité sur ce débat, c'est Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonjour Yves.
Bonjour Estelle, et vive la manivelle. On achète la voiture ensemble, je suis d'accord avec vous.
Bien sûr vrai, Yves. Et là, j'ai plein de textos là, d'amis qui me disent mais je signe ta pétition enfin, tout de suite. Mais si.
Il y a des messages. Vincent, coucou, je vote Estelle, nous dit Vincent sur Direct Studio. J'ai eu ma première voiture, une Twingo, en 1999, avec la manivelle. Au feu rouge, je faisais semblant d'avoir une vitre électrique sans bouger le bras.
Bravo.
Je vous dis que je vais faire un carton avec cette pétition, n'est-ce pas Yves?
Oui, mais vous savez Estelle, aujourd'hui, c'est pas un hasard, la voiture la plus achetée par les particuliers, hein, parce que dans les voitures neuves, il y a beaucoup d'entreprises et des particuliers de plus de 50 ans. Et l'âge augmente de plus en plus parce que le prix augmente.
Oui.
La marque la plus vendue et la plus achetée, c'est la Dacia.
C'est
la moins chère. Elle va vous emmener au bout de quelques centaines de milliers de kilomètres au bout du monde. C'est les voitures qu'on avait il y a 20-25 ans, mais avec la sécurité en plus. Alors le prix augmente, mais effectivement, on devrait revenir aux manivelles, à quelque chose d'abordable financièrement pour tout le monde. Et vous savez, je vous ai entendu parler du prix des voitures en 1981. Moi, en 81, donc j'avais 20 ans. Mmh. Et c'est vrai que j'avais acheté une petite R5 à 100 et quelques milliers de kilomètres, quelques milliers de francs. La grande différence, c'est qu'il n'y avait pas d'électronique, on pouvait tout bricoler nous-mêmes.
Mais
donc l'entretien nous coûtait très peu cher. Oui. Et puis la manivelle, quand elle cassait, moi je démontais la garniture de la vitre, je la réparais. Donc ça faisait que le coût était supportable.
Tu payais un cintre.
MacGyver.
Moi je me faisais la réflexion tout à l'heure, Yves-Cara, mais nos voitures aujourd'hui, c'est K2000. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les années 80, tu regardais K2000 et tu disais, waouh, la bagnole c'est et ça. Tout l'électronique. Et aujourd'hui, on a les mêmes voitures.
Et on en parlait ce matin et on ne connaît qu'un dixième de ce qui est de capacité de la voiture. On utilise une fonction sur 10 électronique du véhicule.
Mais par exemple, typiquement, vous savez, c'est vrai que le GPS dans la voiture, aujourd'hui, les marques dépensent des fortunes pour des GPS. Franchement, aujourd'hui, bon, on va le citer, vous mettez Waze avec votre téléphone, c'est mieux quasiment que tous les GPS. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait économiser là-dessus?
Je rebondis sur la manivelle. Robert Sebag m'envoie un message. Pardon, génial, l'idée de la manivelle. J'ai également des messages. La manivelle, c'est la vie.
Oui.
Donc, excusez-moi, Thierry Moreau. Yves Cara, on se posait la question, la voiture est-elle devenue un luxe? Mais finalement, on n'a pas d'alternative aujourd'hui quand on est consommateur. L'occasion coûte cher, le neuf coûte cher. Qu'est-ce qu'on fait? On loue?
Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qui se passe actuellement, ce que font déjà les Français depuis 2-3 ans. D'abord, on fait durer sa voiture le plus longtemps possible, donc le parc vieillit. Alors, j'entendais dire que les voitures étaient moins entretenues. C'est pas tout à fait vrai. On a un contrôle technique tous les 2 ans qui est vraiment un rendez-vous avec la sécurité routière et qui permet d'avoir des voitures qui... Non, ça coûte pas si cher que ça, parce que si on l'entretient bien, il n'y a pas de grosses réparations. Oui. Sauf quand vous avez le petit voyant qui est allumé et qu'il faut tout démonter, là, c'est un problème.
Voilà.
On est d'accord. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Et puis, donc faire durer sa voiture le plus longtemps possible. On peut acheter une voiture en leasing, LOA ou LLD, d'occasion. Donc là, on paie effectivement la mensualité moins chère. Et puis, on peut essayer de rouler au super éthanol. Mais c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher de rouler en voiture. Il faut de plus en plus... Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à mettre la main à la pâte. Bon, après, faire des vidanges, tout ça, c'est seul, c'est embêtant. Mais voilà, la solution...
Et puis, sur une voiture électrique, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas, la vidange, effectivement. Non, mais... De faire durer sa voiture le plus longtemps possible, c'est ce qui se passe actuellement.
Mais on peut pas, il y a les ZFE qui arrivent.
Alors avec les ZFE, effectivement, ça va être un gros problème, vous savez.
Mais on ne peut plus rien.
La voiture qui pollue le moins, c'est la voiture qu'on ne change pas. Donc une voiture qui dure 20 ans, c'est mieux que deux voitures qui durent 10 ans. Parce qu'on a
mais oui, mais si vous ne pouvez plus rentrer dans les grandes villes, parce que votre voiture qui a 20 ans, je suis désolé, mais elle ne pourra plus rentrer dans les grandes villes là, d'ici janvier. Ouais, donc c'est juste pour aller à la campagne.
Nous, l'Automic Club Association, dès le début, on a dit que les ZFE, ça allait être une boucherie. C'est une catastrophe. On a bien vu que c'était un peu la panique. Là, déjà, en 2023, les critères 3, en 2023, ne devaient plus rouler à Paris. On a bien vu que c'était la panique. Le gouvernement a dit, hop là, on va mettre 2025. Ouais, et grosso modo, on va voir comment ça se passe.
Mais on va pas compter sur le gouvernement tout le temps.
Oui, mais c'est d'une telle évidence, que les ZFE, ça allait passer comme ça, parce qu'il n'y avait aucune logique avec le renouvellement du parc automobile, évidemment que ça va durer. Mais c'est un vrai problème, oui. Et je vais vous dire, on parlait toujours avec le Covid de bénéfices, risques. Là, c'est inconvénient maximum pour celui qui ne peut pas s'acheter une voiture pour 3 ou 4 ou 5, qui travaille dans la restauration, qui termine à 1h du matin. Inconvénient, pour ne pas dire autre chose, maximum, bénéfice zéro sur la pollution.
Sur ceci, socialement, c'est une bombe à retardement, ce truc.
Exactement. Et puis ça va être discriminatoire aussi pour ceux qui vivent à la campagne et qui ont absolument besoin de leur voiture. Bien sûr, quand vous vivez dans une grande ville, bah, vous en avez besoin.
Bah, moi, j'ai plus de voiture depuis que j'habite à Paris.
Bah, voilà, évidemment. Comme Emmanuel à 20 km de Dijon, c'est impossible.
Il va y avoir à peu près 43 communes et métropoles qui vont être interdites pour les critères 3. Alors les critères 3, c'est pas tout de suite, ça va être jusqu'en 2027, ça va être peut-être repoussé. Grosso modo, les critères 3 naturellement vont sortir de la circulation dans les critères 0, 1 et 2, ça va prendre du temps, mais ça sert à rien de tendre le bras des Français. Laissons faire les choses naturellement, le parc va se renouveler, ce sera un dollar, voilà, mais je comprends pas, c'était tellement évident.
Mais personne ne comprend. Gwendoline nous appelle de Drouet dans le Loir-et-Cher. Bonjour Gwendoline.
Bonjour.
Et Gwendoline, vous avez aussi acheté une voiture neuve il y a quelques mois.
Oui, le mois de mai, exactement.
D'accord.
Et pareil que Cédric, juste avant, en fait, ça coûtait moins cher une voiture neuve qu'une voiture d'occasion. En fait.
C'est fou ça. Vous avez acheté quoi comme voiture?
Alors nous, on a acheté un Dacia Logi. Donc le dernier, en fait, il est sorti en novembre 2021.
D'accord, ouais, donc.
Et on l'a acheté en mai 2022, donc il était neuf, il y a un zéro kilomètre. Et en fait, on nous l'a proposé, donc on l'a payé 22 900 euros.
Ce qui est cher quand même pour une Dacia.
Alors, c'est cher pour une Dacia, je suis d'accord. Mais à côté de ça, on a une voiture neuve avec une garantie 6 ou 7 ans, je ne sais plus. En fait, on nous proposait à côté de ça une voiture, un Renault Scénic de 2016, qui avait déjà 36 000 kilomètres et on nous proposait pour 21 000 euros.
Donc ça vaut pas le coup. Oui, mais la différence, c'est vous avez mis combien de temps pour l'avoir, votre Dacia? Parce que la voiture d'occasion, le seul avantage, c'est qu'elle est disponible tout de suite.
Alors là, la Dacia, elle était sortie d'usine en novembre 2021, donc disponible de suite. En fait, on a eu juste eu le temps de préparation de la voiture de 3 semaines. On a attendu 3 semaines et on a eu la voiture tout de suite.
Ça va.
En fait, on a juste eu le temps. Enfin, on a fait monter un crochet d'attelage, un coffre de toit, donc c'était en option. Donc ça a pris 3 semaines, mais on l'a eu tout de suite. En fait, il faut choisir une voiture neuve de parc qui est sur le parc.
C'est ça, parce que sinon c'est des mois d'attente.
Et en plus les Dacia, leur maladie, donc effectivement, parce que par rapport à l'Ukraine, vous parlez de la guerre en Ukraine, le commercial nous avait dit si on voulait, en fait moi je voulais un jogger, j'étais tombée amoureuse du jogger, et en fait il nous avait dit le problème c'est que le jogger de mai, c'était pas avant entre septembre et décembre 2022 qu'on aurait pu l'avoir, parce qu'en fait les lèvres-vitres de ces voitures-là viennent d'Ukraine.
Oui, les manivelles.
Voilà. Exactement, du coup, je pense à Estelle quand elle a parlé de la manivelle.
Exactement.
En fait, il manque les vitres électriques qui viennent de là-bas.
Sachez que nous sommes en train de sortir la pétition sur change.org pour le retour de la manivelle pour baisser votre vitre de voiture. Elle est en ligne.
Voilà,
il y a énormément de mérite, on y va y aller.
Où avant, j'avais un C4 Picasso, toute option exclusive. Et effectivement, ça nous manque, quoi. Je veux dire, le Dacia, les enfants derrière, il y a 7 places, donc dans le coffre, ils n'ont pas de clim, ils n'ont rien.
C'est ça.
C'est de la petite qualité, quoi.
Eh ben merci beaucoup Gwendoline pour ce témoignage. Et donc la pétition pour le retour de la manivelle et sur le compte Twitter d'Estelle Midi, change.org, vous pouvez aller la signer dès maintenant. N'hésitez pas, surtout, il nous faut au moins 10 000 signatures. Yves Cara, est-ce qu'il y a moyen de négocier quand même avec les concessionnaires pour avoir une petite ristourne sur les voitures, ou c'est pas possible?
Alors, ça devient de plus en plus compliqué, on peut toujours le faire. Mais la meilleure solution, c'est ce que vient de dire votre auditrice, c'est de pas être trop difficile sur le choix de la voiture aujourd'hui. On prend une voiture de parc, voilà, elle est là, je vous la prends, parce que s'il ne la vend pas, ça va être dans son bilan, ça va alourdir ses charges. Et pareil pour les voitures d'occasion. Ouais, là, je vais un peu dédramatiser. On trouve des voitures, franchement, d'occasion. Il y a beaucoup de sites et beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de publicité pour justement acheter votre voiture chez nous, alors Autosphère ou autre, machin, il y en a plein, d'occasion ou neuve, parce qu'ils se rendent bien compte que il y a un vrai problème d'achat. Donc, ne paniquons pas, il y a toujours des voitures, mais il ne faut pas être trop difficile. Voilà, pas trop difficile sur la couleur, sur les options, mais il y a encore tout ce qu'il faut. Et quand elle est en parc, vous pouvez négocier. Elle est là, je vous la prends. Croyez-moi, vous pouvez négocier.
Moi, ça m'embêterait d'avoir une voiture s'il n'y a pas la bonne couleur.
Et vu le prix qu'on paie, s'il ne faut pas être trop difficile, c'est comme.
Une blanche.
Je ne dis pas être trop difficile, peut-être sur la couleur, les options,
C'est ce qui plaît.
Oui, mais on est.
Enfin, l'important, c'est d'avoir une voiture.
Moi, je n'ai pas choisi la couleur de ma voiture.
Moi non plus, je n'ai pas choisi la couleur.
On a tout le monde, mais c'est pas grave. Un espèce de bleu. Le bleu derrière Estelle Denis, là, bleu clair comme ça.
Moi, je n'ai pas choisi non plus la voiture de l'électrique. Elle était noir et bleu foncé, donc j'ai trouvé que
c'était pas possible. Bon, bah ça va, vous prenez pas beaucoup de risques.
Oui, non, mais
c'est un peu passe-partout.
Majoritairement, les voitures, c'est blanc et noir.
C'est ça.
Majoritairement, parce que pour la revente, c'est beaucoup plus facile.
Exactement.
Le blanc, c'est moins cher.
Je savais pas.
70 ou 80%, c'est blanc et noir. Donc, ça compte pas beaucoup, là.
Merci beaucoup, Iskar, en tout cas, d'avoir été avec nous. Alors là, c'est un sondage.
Il est optimiste.
Ouais, on a fait un sondage, mais je peux vous dire, c'est pas une petite majorité, là. La voiture est-elle devenue un luxe, Rémi?
C'est oui, évidemment que c'est oui, et c'est un oui extrêmement massif. 92% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux estiment que la voiture est devenue un luxe.
Allez, dans un instant, Amélie Rosy, RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider Emeline. Emeline, elle a eu sa voiture endommagée par un câble électrique, mais personne ne veut l'indemniser.
Bah, on prie des voitures aujourd'hui.
Bah, voilà, exactement. On tendra de l'aider. On ne sait pas si c'est une voiture neuve ou une voiture d'occasion. Et puis, juste après, il y aura les immanquables et bien sûr le coffre RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle à midi. Et dans cette dernière partie, on vous aide. C'est RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie, on va s'engager auprès d'Emeline. Emeline, il lui est arrivé une petite mésaventure à cause d'Elédis.
Ouais, Emeline, elle est directrice générale d'une agence immobilière en Île-de-France. Le 26 décembre 2020, elle est réveillée par ses voisins en panique. Un câble électrique sur le parking est en flammes et sa voiture est garée juste en dessous. Elle réussit in extremis à déplacer son véhicule juste avant l'arrivée des pompiers. Trop tard, sa carrosserie est entièrement recouverte de gouttes de plastique fondu qui ont littéralement se sont transformées en carrosserie carrément. Un cadeau de Noël honnêtement empoisonné dont elle se serait bien passée, mais Emeline est assurée tout risque. Elle se dit donc logiquement que son dossier sera réglé rapidement. C'était il y a bientôt 2 ans.
Je suis commerciale. Moi, j'ai besoin de présenter correctement devant mes clients et j'arrive avec une voiture, une voiture d'Almacien un petit peu, là. Elle est toute mouchetée de partout. La Massif m'a dit, mot pour mot, vous avez qu'à lancer une procédure contre Enedis. Je leur ai dit, je ne vais pas gérer mon propre sinistre, je vous paye pour le faire.
Sauf que la Massif, ne fait rien, justement.
Enfin, c'est invraisemblable, pourquoi ce dossier n'avance pas?
Alors, parce qu'Enedis, nous dit la Massif, propriétaire du câble électrique, ne répond pas. Le gestionnaire du réseau ne s'est jamais présenté lors des différentes expertises qui ont été menées par l'assureur. Résultat, l'assureur bloque la demande d'Emeline. Notre auditrice a adressé pourtant plusieurs réclamations, des courriers recommandés, des mises en demeure, sans succès. Selon son garagiste, il y en a quand même pour 2000 euros de réparation. Et en attendant, elle continue surtout de payer 100 euros par mois à la Massif. Oui, quand même, pour assurer son véhicule qui roule, mais qui est très endommagé.
Vous avez évidemment repris le dossier, Amélie. Est-ce que vous avez pu le faire avancer? C'était un peu le but.
C'est un peu l'objectif. Oui. Et avec Johanna Chabas et Élise Dangean, on a fait mieux que faire avancer le dossier, puisque c'est un dossier réglé.
Mais non.
Voilà. Et si on peut le cocher en vert, on est hyper contente. Comment on a fait? On a contacté la Massif, qui nous a répondu en moins de 24 heures. Je rappelle que Emeline, elle attendait depuis quasiment 2 ans.
Oui.
L'assureur pointe du doigt, une fois encore, la responsabilité d'Enedis dans ce dossier, nous confirme que le gestionnaire n'a jamais honoré les convocations aux expertises. On a quand même, par précaution, appelé Enedis, qui nous a répondu hier soir tard, en nous disant, nous on n'a jamais rien reçu, on n'a pas de convocation.
Bah, bien sûr.
Bon, chacun se fera son opinion. En tout cas, la Massif a accepté à titre exceptionnel, après l'intervention, de prendre en charge la totalité des dommages, sans délai, sans franchise, et même un lustrage de la carrosserie. Mais ma bonne dame.
Ouais, ça prouve quand même que les assureurs font ce qu'ils veulent.
Voilà, voilà. Quand ils veulent, ils peuvent. Emeline, en tout cas, elle pourra se rendre à ses rendez-vous clientèle, parce qu'elle est directrice d'une agence immobilière, il faut quand même bien se présenter. À ses rendez-vous clientèle.
Elle devait se garer trois rues à côté.
Ah bah oui, non mais vous rigolez.
Pour pas croire qu'elle avait jamais vendu un appartement, fallait dire.
Ah bah bien sûr, vous rigolez, mais elle avait eu énormément de remarques de la part. Elle avait eu des remarques de ses clients en lui disant, est-ce que vous avez vu votre voiture? Il y a un souci. Oui, j'ai vu. Non, compliqué. Voilà, il faut quand même bien présenter. Donc, en tout cas, ça devrait être réglé et on espère qu'elle récupère une voiture flambant neuve ou presque dans peu de temps.
En tout cas, une nouvelle fois, vous avez gagné. Amélie, bravo. Demain, on aidera qui?
À demain, c'est un dossier très compliqué, mais qu'on aime beaucoup. Une petite famille, des Français, avec 2 enfants qui sont partis en vacances en Turquie l'été dernier. Ils se sont retrouvés en garde à vue parce que, visiblement, leur identité aurait été usurpée, mais pas pour faire n'importe quoi, pour partir en Syrie. Et donc, du coup, ils se retrouvent sur un fichier de potentiel terroristes, alors qu'ils n'ont rien fait, et on a tenté de les aider. Je vous dirai tout demain.
Oui, donc ça, c'est un énorme dossier. Ce sera demain dans Estelle Midi, Amélie Rosy, 14h30, tous les jours, dans Estelle Midi. Dans un instant, on ouvre peut-être le coffre RMC, et en tout cas, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h40, vous êtes dans Estelle Midi. Dans un instant, on vous donnera toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est l'heure du coffret RMC. Et Rémi, vous allez nous rappeler le principe du coffret RMC.
C'est simple, vous êtes sélectionné, vous avez envoyé coffre par SMS au 7-32-16. L'un d'entre vous va être avec nous dans un instant, la personne sélectionnée. Et à ce moment-là, tu vas ouvrir une enveloppe, Estelle, et il aura gagné un iPad ou une enceinte Marshall Woburn. C'est déjà un beau cadeau.
Oui.
Bon, c'est bien. La personne sélectionnée peut repartir avec ce cadeau ou choisir de le remettre en jeu. Elle abandonne ce cadeau, mais elle ouvre le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods ou alors la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar.
Et on va jouer aujourd'hui avec David qui nous appelle de Mourou en Seine-et-Marne. Bonjour David.
Oui, bonjour.
David, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis jardinier de golf.
Oula, c'est dangereux en ce moment.
Non, ça va.
Mais avec,
les écolos. Ouais, qui bouchent les trous.
Ah oui, d'accord. Non. Bah, il faut savoir que les golfs, c'est un repère de biodiversité.
D'accord.
Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pour les oui. oiseaux, pour leur. Voilà, c'est un repère au contraire de ce qu'on peut croire, que c'est très polluant.
Non, mais vous inquiétez pas, David. Non, mais c'était une blague vanne, en fait. Mais c'est bien que vous ne voulez pas nous faire l'apologie des golfs, mais enfin, je comprends que vous aimez votre métier.
J'en profite pour lancer le message, quoi. Et les produits phytosanitaires vont bientôt être interdits, en plus.
Bravo. David, revenons à nos moutons, c'est-à-dire le coffre RMC.
Oui.
J'ai une enveloppe devant moi avec un fort joli cadeau. Ou un iPad ou des enceintes Marshall. Mm-hmm. Vous préférez quoi, David ?
Un iPad.
Un iPad. J'ouvre l'enveloppe, David.
Suspense.
Je préfère les enceintes.
Eh bien, c'est pas un iPad, mais c'est bien aussi parce que vous gagnez des enceintes Marshall Woburn 3. Ou 3. Je crois que c'est anglais. David, si vous n'avez pas envie de ces enceintes, si vous en avez déjà, vous pouvez également ouvrir le coffre RMC. Dans ce coffre RMC se trouvent soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde. C'est-à-dire une télé, une barre de son, une Xbox, un four, un pizza et un mini-bar. Vous faites quoi, David ?
Je voudrais demander conseil à Fred Armel. Qu'est-ce qu'il me conseille ?
Oula,
ça c'est une grosse
actualité. David,
en tant qu'afterien que je te demande ce conseil.
Moi, sincèrement, moi, je suis joueur. Ah bah oui. Donc, moi, je vais directement au coffre.
Mais
c'est mon opinion.
Et vous êtes arrivé avec rien et vous aurez quelque chose de toute manière.
Non, mais j'écoute Fred.
C'est sympa pour nous. Eh bien, écoutez, je fais le code du coffre, 1205E.
Faudra pas m'en vouloir, David, si ça marche pas.
Hein. On ouvre le coffre.
T'inquiète pas.
Attention, David. Dans ce coffre, David, il y a une boîte marron que j'ai devant moi. J'ouvre cette boîte marron, David, et vous remportez des AirPods, David.
C'est très bien.
Voilà, c'est bientôt Noël, c'est formidable. Voilà. Et en plus, ça marche très bien. Quand on va courir, c'est formidable. Bravo, David.
Je pourrais continuer d'écouter l'after en podcast.
D'accord, parfait, super.
Et puis Estelle Midi aussi, les podcasts.
Estelle Midi en podcast.
Vous écoutez en direct, vous.
C'est parfait.
Tout en travaillant.
Alors, et j'en profite, au niveau des podcasts, de vous rappeler qu'on a battu notre record historique. Plus de 700 000 podcasts téléchargés au mois d'octobre. Une hausse de 154% en un an. On est très fiers. Alors surtout, vous n'hésitez pas. Il faut continuer à nous écouter en podcast sur le site rmc.fr, mais aussi sur toutes vos applications de podcasts.
Et la totale Coupe du Monde de Jeu du Coffre n'a pas été remportée, mais vous continuez à jouer, évidemment. Ce sera tout de suite après cette émission dans le Super Moscato Show. Vous continuez donc à jouer en vous inscrivant, en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi,
les immanquables.
Et on passe tout de suite aux infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Rémi, on commence avec le jugement du jour.
En France, refuser de donner son code de téléphone portable aux autorités judiciaires est un délit. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation. À l'origine de cette décision, une affaire de drogue. Un homme interpellé en possession de cannabis avait refusé, durant sa garde à vue, de donner les codes de ses deux smartphones qui auraient pu servir au trafic. À deux reprises, la justice lui avait donné raison sur ce point avant que la Cour de cassation ne tranche donc définitivement. évidemment. L'individu devra donc être rejugé pour ne pas avoir donné son code de téléphone portable au policier. Il risque 3 ans de prison, 270 000 euros d'amende.
Est-ce que ça vous choque, Fred Hermel, qu'on demande comme ça des codes de téléphone portable en garde à vue?
Oui, bah, quand vous êtes en garde à vue, c'est qu'il y a des choses à enquêter. Donc oui. Oui, non, ça ne me choque pas plus que ça. De la même manière qu'il peut y avoir une perquisition aussi demandée par un juge, c'est une forme de perquisition. Quand on va perquisitionner un téléphone, c'est aujourd'hui peut-être même plus important que la perquisition chez soi. Donc non, je trouve pas ça incroyable.
Ça doit simplement se faire dans ensemble de conditions. Par exemple, oui, ouvrir ton coffre de voiture, ça ne peut être fait qu'en présence d'un.
Bien sûr.
Là, en plus, comme c'est une décision de la Cour de cassation, ça veut dire que c'est une décision qui est rendue sur la forme et pas forcément sur le fond.
Oui, oui.
Donc il faudra attendre de voir au moment du rejugement comment ça va se passer. Moi, ça ne me choque pas non plus. Je dirais que si on n'a pas grand-chose à se reprocher, on donne son
Enfin, moi, ça m'embêterait de si j'ai rien à me reprocher. Excusez-moi.
Si vous êtes impliqué dans un trafic de manivelles de voitures, par exemple, veut voir si dans votre téléphone, vous avez lancé une pétition les manivelles.
Oui.
C'est tout ça, c'est la loi.
Mais je n'arrive pas à la signer, donc c'est quand même très embêtant. Donc voilà, mais enfin, cette pétition existe, en tout cas, pour le retour de la.
Non, mais c'est pas choquant. Comme dit Fred, à partir du moment où il y a une enquête, toutes nos vies aujourd'hui, toutes nos données sont dans ces téléphones. Je me dis, mais une enquête qui n'a pas accès à ton téléphone, elle a accès à quoi?
C'est
comme ils ont accès à tes comptes bancaires. Avant, tout ça passe par des autorisations de préfecture, etc.
Bien sûr,
etc. C'est très encadré. Hein,
et puis, c'est ça. En France, en plus, on a une vraie grande démocratie où la police ne peut pas faire n'importe quoi dans
et
ta vie.
Et puis, je vous rassure, les criminels, ils ont maintenant des systèmes avec des cartes qui cassent après, des téléphones qui ne servent qu'une fois. Donc, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose.
Ils ne mettent pas leur date de naissance en code, ça vous
dire.
Le mea culpa du jour.
Mea culpa de Sepp Blatter. Dans une interview publiée par les titres du groupe suisse Tamedia, l'ancien président historique de la FIFA dit regretter l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Pourtant décidé durant son mandat, l'ex-dirigeant pense désormais que le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour cela.
Mais Fred Hermel, extraordinaire.
Quand j'ai lu ça,
on rappelle qu'évidemment, Sepp Blatter a milité pour la Coupe du Monde au Qatar. Enfin, il y avait un procès, etc. Enfin bon, et dire ça aujourd'hui, et c'est comme.
Mais il aurait dû se taire. Parce que là,
certain âge, hein, Sepp Blatter.
Oui, mais là, je n'excuse pas tout. Hein.
Oui, mais là, quand même, il y a
C'est la tartufferie à son plus haut niveau et c'est de la tartufferie très, très chère parce qu'il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent à la tête de la FIFA. Donc, c'est pas que ça frôle l'indécence, ça dépasse l'indécence, quoi. Il est le principal responsable de l'attribution de cette.
De Coupe du Monde.
Coupe du Monde au Qatar. Et maintenant, il vient dire, peut-être trompé, là.
C'est ce qu'on appelle cracher dans la soupe de caviar, quoi, parce qu'il a dû quand même en manger une sacrée soupe.
On
est d'accord.
Oui. Donc, c'est honteux. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Il est tartuffe.
On va passer au succès du jour.
Le Puy du Fou, parc d'attractions vendéen réputé pour ses fresques historiques, a accueilli 2 334 000 visiteurs en 2022. C'est un record, ça tombe bien, historique, depuis la création du site par Philippe de Villiers en 1977.
C'est justifié, ce succès, pour vous, Emmanuel Dancourt?
Il y a que moi qui suis allée au Puy du Fou sur ce plateau.
Non, moi, j'y suis jamais allée.
D'accord.
Moi, je suis vendéen, donc j'y ai.
Moi, j'ai envie d'y aller.
Non, mais moi, j'y suis allée deux fois. C'est magnifique. C'est somptueux. J'y étais allée au tout début quand ça ressemblait pas encore à grand chose. Ça fait plusieurs années d'affilée qu'ils sont meilleurs parcs du monde. Hein.
Oui.
C'est pas pour rien. Quoi qu'on pense de la reconstitution, du sens qu'on fait de l'histoire, etc. Moi, je parle. Voilà, tu débarques avec des enfants.
Il y a une petite revisitation de l'histoire.
Mais cela dit, quand tu es dans le stade romain et qui te refont une scène romaine. Donc toi, tu es le public romain, c'est avec les tigres, les lions, les chars, hallucinant. Et tous les spectacles sont magnifiques. Voilà, c'est un endroit assez extraordinaire en immersion d'y voir, Thierry.
Oui, après, un petit bémol. Moi j'ai connu la ciné scénique, on n'y avait que le spectacle projeté sur le château, il n'y avait pas le parc. Hein.
Tout à fait.
Et j'ai trouvé qu'à l'époque, l'histoire était très revisitée. C'est-à-dire que
comme
personnage.
Je parlais du parc, je parlais pas de la ciné scénique.
Les personnages contestés étaient mis en valeur, c'était un petit peu compliqué. C'est aujourd'hui devenu un parc qui a un rayonnement international, puisqu'ils vont même en ouvrir à l'étranger. Donc c'est très bien.
Mais
ne jamais oublier que l'histoire a été un petit peu tordue par les promoteurs de ce parc qui sont très marqués politiquement.
Oui, on accepte que l'histoire soit marquée politiquement quand elle est de gauche, mais quand c'est une vision de droite,
Je dirais pareil.
Voilà, donc automatiquement, l'étude de l'histoire, elle est politique. Il n'y a pas de neutralité dans l'étude de l'histoire. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est un modèle. En Espagne, c'est un succès phénoménal. Ce parc s'exporte. Et puis, moi, ça me rassure. C'est-à-dire que les Français ont encore envie d'apprendre des choses sur l'histoire.
Ils adorent l'histoire de France.
Les Français adorent leur histoire. Du plaisir dans un divertissement sur l'histoire. Je trouve ça un signe d'espoir absolument extraordinaire. Donc, bravo le Puy du Fou.
Les aveux du jour.
Le président de la conférence des évêques de Lourdes a révélé hier que 10 anciens évêques ou évêques toujours en activité sont mis en cause devant la justice civile ou devant celle de l'église pour des signalements de violences sexuelles. Parmi eux, l'influent cardinal Ricard, ancien archevêque de Bordeaux, notamment concerné. Donc, il est notamment concerné. Il a reconnu une conduite répréhensible sur une mineure de 14 ans. Et là, il y a quelques instants, on a appris d'ailleurs qu'une enquête préliminaire était ouverte par le parquet de Marseille et que c'est l'évêque, le cardinal Ricard, qui lui-même avait saisi la justice en octobre dernier.
Avoir votre avis là-dessus, Emmanuel.
Alors oui, les téléspectateurs ne le savent pas forcément. J'ai travaillé très 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 longtemps sur une chaîne qui s'appelle Catéo, qui est la chaîne confessionnelle catholique, où je faisais la seule émission non catho de la chaîne, mais je suis quand même très très bien renseignée sur ces histoires-là. Moi, les bras m'en tombent. Le cardinal Ricard, les gens ne le savent pas forcément, c'est un des grands pontes de l'Église. On a parlé du cardinal de Monseigneur Santier aussi, qui était évêque en Vendée d'ailleurs, Thierry, qui faisait des strip confessions. Alors ça peut faire rire, moi ça me fait pas rire du tout. C'est des gens que j'ai interviewés, c'est des gens que j'ai rencontrés. Et en même temps, les bras m'en tombent. En même temps, il y a un hashtag qui est sorti chez les catholiques, qui s'appelle hashtag sortons les poubelles, avec quelques catholiques qui essayent de manifester en disant mais c'est quoi cette Église, on ne veut pas de ça, nettoyer, mais ils nettoient. J'ai envie de dire, ils nettoient. Et il y a d'autres institutions qui ne nettoient pas. Pas très vite, mais ils le font. Pas très vite, on est d'accord. Et ça signe peut-être une partie de l'échec de Vatican II. Tout ça va être analysé. Et je suis d'accord.
C'est ça qui me gêne. Ce qui me gêne, moi, souvent, c'est que ces gens-là ne sont pas traduits devant la justice des hommes, mais on les met dans un monastère. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait été relégué. Qui avait été relégué pour être confesseur dans une communauté de religieuses âgées.
De vieilles religieuses, bien sûr. C'est ce qui
me gêne. La justice des hommes.
Je suis d'accord, il faut absolument que la justice des hommes passe dessus. Et ce qui est coupable, c'est le silence de l'Église. Et ça, c'est inadmissible.
Il y a quelque chose qui s'est passé, ça s'appelle la commission Sauvé. Jean-Marc Sauvé, un laïc, quelqu'un au-dessus de tout soupçon, qui a révélé des chiffres incroyables, qui sont aussi un peu contestés. Mais bon, mais il y a un vrai travail de nettoyage au sein de l'Église. C'est une réalité.
Et mais j'aimerais... Il faut que ça aille plus vite.
Il est très lent.
Il faudrait que ça aille plus vite aussi dans l'éducation nationale. Parce que les histoires de profs convaincus de pédophilie qui ont été nommés dans d'autres, dans d'autres régions, ça existait aussi.
C'est un autre problème.
Mais non, non, mais je veux dire que.
C'est pas parce qu'il y a un autre problème à côté qu'on parle de
l'Église. Il n'y a pas que l'Église. Il y a des problèmes de pédophilie. On parle d'institutions, donc. L'Église, c'est lent, mais l'Église est en train de faire un travail énorme.
Une omerta dans l'Église qu'il y a nulle part ailleurs, je suis désolé.
Qu'il y a dans l'éducation nationale, qu'il y a dans les camps de vacances. Mais bien sûr que si.
Non, il y a un problème. Il y a un problème. Non, il y a des chiffres. Il y a un problème avec l'Église. L'Église de France, il y a eu un vrai problème. Si aux États-Unis, en Irlande, en Espagne, en Amérique latine, ça fait des années. Ça fait des années que le travail a été fait.
La commission Sauvé, c'était il y a un an quasiment jour pour jour.
Oui, ça fait 10 ans que c'est fait aux États-Unis.
Mais aujourd'hui, on parle de ça. Parce que l'Église est en train de faire le travail.
Elle commence.
Qu'elle aurait dû le faire avant, bien entendu. Sauf que y a cette commission Sauvé, elle est.
Tu pourrais admettre que l'Église de France a eu du retard par rapport aux autres églises.
Elle a eu du retard, sauf qu'elle le fait. Et beaucoup d'associations en France ne font pas ce travail.
Enfin, heureusement qu'elle le fait avec toutes les associations qu'il y a eu.
Mais heureusement.
C'est très choquant. C'est que, effectivement, c'est tardif. Ça a le mérite d'exister, tu as raison, Fred. Mais c'est tardif. Et surtout, l'Église a essayé de se protéger au maximum au détriment des victimes. Détriment des familles. Il y a plein d'affaires qui sortent partout. L'Institut Saint-Gabriel, encore en Vendée, ça sort aussi.
Encore en Vendée
c'est très catholique.
Même des gens du Renouveau Charismatique qui devaient être.
Je donne la parole, je suis après Thierry, mais juste toutes les communautés nouvelles, elles ont quasiment toutes. Alors, je pense, on peut appeler ça un MeToo. Toutes les communautés nouvelles qui sont nées, donc des communautés charismatiques qui sont nées il y a 40-50 ans, elles ont toutes des problèmes avec leurs fondateurs. Donc on est tous un peu complètement démunis face à ça. Thierry.
Moi, j'ai appris l'année dernière en parlant avec mon père qui est décédé au moment de son décès que quand il était dans un collège catholique, il avait été tripoté par deux prêtres. Il n'en avait jamais parlé à personne. Je pense que c'est un truc qui est tellement ancien que Fred, je suis d'accord avec toi. Ok, ils y vont, mais ils y vont tardivement. La plupart des témoins seront, les prescriptions seront évidemment dépassées.
On est d'accord.
Et les gens seront morts.
C'est ça.
Donc, c'est pas bien. On est en retard.
Pardon. Oui, ce que je veux dire, bah, plus ils attendront, effectivement, moins il y aura de plaintes, plus ils en seront morts. Donc, évidemment. C'est embêtant. Le jackpot du jour.
Conséquence des prix records de l'électricité, les éoliennes ne sont plus une charge pour les finances publiques. Elles pourraient même générer des recettes exceptionnelles en 2022. Bah, ce sont des chiffres.
Formidable.
Quelques 3,7 milliards d'euros de recettes. Et si les prix de l'énergie restent au niveau actuel, la filière devrait avoir remboursé l'ensemble du soutien public qu'elle a perçu depuis 2003 dès le quatrième trimestre 2024.
Alors, je sais que vous êtes anti-éolienne.
Mais j'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde. C'est quoi ces 150 milliards qui est investi?
Mais vous avez vu la hausse des prix d'énergie?
Bah oui, mais non.
Eh bah oui, donc ils vendent plus cher. Donc voilà, le vent est toujours le même.
Mais oui, non, bien non, sûr. Non. Mais
écoutez, c'est... le vent est le même. Si avant vous vendiez.
Non, c'est pas vrai. Le vent baisse puisqu'en Allemagne cette année ils ont eu un problème de vent. Ça n'a pas fonctionné.
Si aujourd'hui, s'il y a deux ans vous vendiez votre électricité et qu'aujourd'hui vous la vendez 100, forcément vous allez faire
Mais sauf que l'investissement, il est tellement gigantesque qu'il ne sera jamais remboursé. Parce que les éoliennes ne fonctionnent que 25% du temps.
La seule chose qui est rentable aujourd'hui, et on le dira assez, c'est le nucléaire.
Merci Thierry. Bon,
voilà. Ça vient d'où ces chiffres, Rémi?
Ah bah c'est le ministère de l'économie. Hein.
Ah bah voilà, bah donc on peut quand même se fier par
forcément. Tu sais, les chiffres, tu peux les regarder de plusieurs perspectives.
Bien sûr. Enfin là, c'est le ministère de l'économie.
Je crois pas un instant non plus.
C'est pas possible.
D'accord. Bah bien sûr, mais le ministère de l'économie nous gruge. Bah oui, bien sûr.
Ce serait pas la première fois. Hein.
C'est pas faux. C'est pas faux. Enfin, moi, je ne veux pas avoir de contrôle fiscal, donc je préfère dire du
bien. Je pense qu'ils ont raison.
Mais moi, je trouve formidable. Tellement rapide.
Ils sont très pratiques.
Ils sont aimables.
Conciliant.
Je les adore. Une élégance rare.
Ça, c'est fait.
Sur ces bonnes paroles, nous allons arrêter cette émission. C'est la fin des midi.